Les programmes du studio Kalangu continuent avec l'édition en français. Il vient d'être à 18h et vous êtes en compagnie de Rukayat Abdrahman. À la une, un douanier a ouvert le feu sur un transporteur de carburant fraudé entre deux villages de Maradi. L'homme a succombé à ses blessures, des précisions dans ce journal. Face aux difficultés de capture des girafes, les spécialistes ont préféré arrêter l'opération après la capture à Kouré de 8 individus sur les 10 prévus et désormais placés à Gadebeji. Des explications avec le conservateur de la réserve de Gadebeji. Les citoyens de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont toujours confrontés aux difficultés de circuler dans cet espace. Les défis restent à relever pour le respect des dispositions du traité dit protocole sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement qui existe depuis 1979. Dans la partie magazine de cette édition, une analyse d'une personne avertie sur le sujet. Bonsoir à tous. 2 morts, 9 blessés, dont 3 graves. C'est le bilan d'une collision hier entre Birnin-Gaouré et Yeye, entre un bus de passagers et un camion de marchandises. L'adjudant-chef Salha Adamou, adjoint au chef des sapeurs-pompiers de Kony, donne d'autres précisions au micro de notre correspondant local Asmana Moussa.
Aussitôt alerté, comme d'habitude, on travaille conjointement avec l'hôpital de la gendarmerie de la police. Immédiatement, j'ai saisi le docteur du district de Kony pour nous appuyer en ambulance. Tous ceux qui sont blessés, on les a évacués à bord d'un véhicule particulier. On a trouvé les 2 véhicules en collision, y compris le décédé qui est au lieu de l'accident. De nombreux 9 victimes, dont 3 blessés graves, 6 blessés légers et les 2 décédés. Voilà le bilan en ce qui concerne le personnel. En ce qui concerne le dégât matériel, le deuxième camion communalement appelé Dogomba, lui, il est totalement endommagé. En ce qui concerne le bus, la société Sonitrav, lui, c'est le cabine qui est cabossée.
L'accident s'est plutôt produit entre Birnin Kony et Yeye. À Maradi, un homme de 36 ans répondant au nom de Issa Sani est mort par balle pendant qu'il transportait du carburant fraudé. C'est ce qu'a déclaré à notre correspondant local l'acteur de la société civile Abdou Danetou.
C'est entre 2 villages, Kountoumé et Chantala, qu'un douanier a tiré sur un jeune homme transportant du carburant sur sa moto. Il a reçu une première balle au bras et une deuxième à la côte. Si c'était une balle, ça peut se comprendre. Mais jusqu'à 2 balles, quel danger il présente à ses douaniers. Même si c'est une poursuite, c'est pas de cette manière qu'il faudrait faire. Même s'il faut tirer, c'est sur son pneu qu'il faudrait tirer, pas sur sa personne. Il n'y a pas au Niger une loi qui dit de tirer sur un individu parce qu'il transporte du carburant. On dit de saisir la marchandise et de saisir la moto. Normalement, les autorités doivent intervenir depuis qu'il y a eu la première affaire. On ne peut pas comprendre ça.
Afin d'équilibrer l'information, notre correspondant a rencontré le chef de la brigade mobile de la douane de Maradi qui n'a pas souhaité répondre. Les élèves du complexe d'enseignement secondaire de Kony, en région de Tillabéri, en grève illimitée lancée vendredi, ont repris le chemin de l'école ce lundi. Une interruption pour faire place aux négociations en cours avec le directeur départemental de l'enseignement secondaire, selon leur responsable syndical interrogé par notre correspondant local ce matin. Pour rappel, ces élèves se sont insurgés contre le manque d'enseignement et les dernières affectations d'enseignants intervenues récemment au sein de leur école. Plus d'un milliard de francs CFA, c'est la somme prévue par la commune d'Agadez dans son plan d'investissement pour 2019. L'argent mobilisé sera injecté dans les domaines de la santé, de l'éducation et des énergies renouvelables. La réunion de mobilisation a eu lieu le 4 décembre et a regroupé toutes les couches sociales de la commune. Ahmed Koussa, vice-maire de la commune, explique la démarche au micro d'Anissé Karim.
Donc ce plan d'investissement annuel tourne autour de 1 milliard 100 et quelques millions. C'est ce PIA-là que nous sommes en train d'élaborer aujourd'hui. Il y aura un comité qui sera mis en place pour pouvoir regarder un peu quelles sont les activités prioritaires de la commune qu'il faudrait inscrire et regarder aussi le PIA de l'année passée, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Les investissements phares, c'est surtout l'éducation, la santé et maintenant nous sommes en train de voir les énergies renouvelables parce que sans énergie, vraiment, il est difficile de créer un processus de développement, surtout en termes d'industrie, etc. Notre commune est en train de faire un pas pour installer certaines activités parce que, comme vous le savez, nous sommes en train d'acheminer vers un plan d'interdiction d'utilisation du plastique. Donc, il faudrait qu'on installe autre chose pour changer un peu. Ça, il nous faut de l'énergie aussi pour le faire.
Le mois dernier, c'est un rappel, 8 girafes, dont 3 mâles et 5 femelles, ont été déplacées de Kouré pour la réserve de Gadebeji dans la région de Maradi. Initialement, il était question de prélever 10 individus, mais à cause des difficultés de capture, les responsables du secteur ont préféré s'en tenir aux 8 prises. C'est ce que semble expliquer le lieutenant-colonel Danfatima Mahamman Senoussi, conservateur de la forêt classée de Gadebeji, interrogé au téléphone ce matin par notre reporter Moussa Hassan.
Comme prévu, c'était pour une première phase, c'était d'amener 10 individus. Compte tenu de la délicatesse même de l'opération de capture, on n'a pu capturer que 8, 3 mâles et 5 femelles. Les 8 sont actuellement transloqués dans la réserve des biosphères de Gadebeji. Et elles se portent très bien parce que tout le dispositif de protection est disponible. Le pâturage est assuré, il y a l'approvisionnement en eau qui est là parce qu'il y a 2 mâles qui sont aménagés de manière permanente. C'est une phase expérimentale. Maintenant, quand ça marche très bien, il y aura une autre phase pour transloquer d'autres individus. D'après le programme, c'est une quinzaine qui sont prévues. Donc, pour le moment, on a 8. C'est vraiment une phase expérimentale. On soit en observation à travers un suivi écologique très régulier. Et maintenant, en fonction de l'évolution de la situation, on va voir l'opportunité de transloquer le deuxième groupe.
La situation sécuritaire au Sahel, notamment au Burkina Faso et au Mali, est des plus préoccupantes selon une dépêche de l'agence France Presse. Les conflits intercommunautaires et les attaques des présumés djihadistes sèment la désolation parmi les populations civiles. Mariama Diallo-Kenda.
Au Mali, l'attaque menée contre un village par des chasseurs traditionnels d'Ozo a fait 37 morts mardi. Au Burkina, au moins 46 civils ont été tués entre mardi et mercredi après l'attaque du village de Yirgu Centre attribué aux djihadistes, rappelle une dépêche de l'AFP. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières dans le nord du pays et l'est frontalier du Togo et du Bénin et qui ont fait plus de 270 morts depuis 2015. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises. Au Mali voisin, depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du pays du groupe djihadiste du prédicateur Peul Amadou Koufa, tué fin novembre dans une opération militaire française soutenue par l'armée malienne selon Paris et Bamako, les violences se multiplient de la même façon entre les Peul et les ethnies Bambara et Dogon. Ces violences intercommunautaires y ont fait plus de 500 morts civiles en 2018 selon l'ONU.
Une tentative de coup d'État a échoué aujourd'hui au Gabon, pays dont le président malade est absent depuis 2 mois et demi et où le gouvernement n'assure plus que les affaires courantes selon l'agence française de presse AFP. Pour la première fois dans l'histoire du Gabon, un groupe de militaires est apparu lundi à l'aube à la radio-télévision nationale à Libreville appelant à un soulèvement et annonçant la prochaine formation d'un conseil national de restauration de la démocratie. Quelques heures plus tard, le calme était revenu et la situation était sous contrôle selon le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Guy Bertrand Mapangu, rapporte une dépêche de l'AFP. Du sport dans ce journal, a évalué les préparatifs de l'organisation de la CAN U20 Niger 2019 que le Niger s'apprête à accueillir le mois prochain. C'est l'objectif de la réunion tenue samedi à Niamey par le comité local d'organisation de ce grand événement sportif. Tout est fin prêt pour ce tournoi, a déclaré Madame Ibrahim Hadiza Adamou, membre du dit comité au micro de Gungu Mamadantani.
Par rapport aux infrastructures, le stade général Saint-Kounté, il reste des travaux à finaliser. Et là aussi, des dispositions ont été prises pour résoudre ce problème-là. Au niveau du stade régional de Maradi, là aussi, des dispositions ont été prises. Il y a des commissions qui sont mises en place. Il y a une commission des infrastructures qui est en train de faire tout pour que les infrastructures là soient prêtes avant la semaine prochaine sur le plan d'hébergement. Il y a la commission qui a déjà fait la réservation des hôtels ici à Niamey et à Maradi. Il y a le secrétariat permanent qui est mis en place. Le siège se trouve au palais de sport. Il y a la commission médicale. Toutes les commissions sont prêtes et attendent la CAN U20.
Dans le cadre de la Super League de football 2018-2019, deux matchs ont été joués dimanche à Niamey pour le compte de la deuxième journée. L'AS Sonidep a battu l'AS Gendarmerie par 1-0 et l'ASN Nigelec s'est imposé face à l'Urana Darlit par le même score de 1-0. Le match Racing de Niamey et Akokana Darlit est reporté au mercredi.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Et puis la partie magazine de cette édition, malgré l'existence depuis 1979 du traité dit protocole sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des citoyens de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, des défis énormes restent quant au respect de ces dispositions. C'est ce qu'explique le directeur du département migration de l'association alternative Espace Citoyen, Amadou Boulama Terno, au micro de Michel Deji.
La libre circulation des citoyens des pays membres de la CEDEAO est encore loin d'être une réalité 40 ans après l'existence du protocole de Dakar qui la prévoit, s'indigne Amadou Boulama Terno, directeur du département migration de l'association alternative Espace Citoyen.
La CEDEAO est une forteresse pour ses propres ressortissants, nonobstant les dispositions pertinentes du protocole de Dakar sur la libre circulation des personnes et des biens.
Que dit ce protocole?
Le droit de résidence et d'établissement. Le droit de circuler librement dans les États membres de la CEDEAO. Les États disposent du pouvoir discrétionnaire de refouler ou de refuser l'entrée d'un citoyen membre de la communauté dans son territoire. Il y a des motifs comme troubles aux bonnes mœurs, insécurité, santé publique, etc., des restrictions qui sont faites. Mais normalement, ces restrictions-là devaient se faire en respectant les obligations des États parce que, comme on dit, les textes supranationaux sont supérieurs aux textes nationaux et on sait que en la matière, l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit la liberté d'aller et de venir. Mais pour rester dans l'espace communautaire aujourd'hui, si vous voulez franchir une frontière de n'importe quel pays membre de la CEDEAO, que vous soyez en règle ou non, vous allez être confronté à ce qu'on appelle les pratiques anormales.
Cela est dû à quoi? À qui la faute?
Cela est dû à la voracité des agents de l'administration publique dans les différents pays membres qui sont censés normalement garantir l'application des textes mais qui sont devenus leurs violateurs. Et les chefs d'État ont reçu des rapports qui témoignent de ces tracasseries routières, mais ils n'agissent pas.
Qu'est-ce qui fait justement qu'ils n'agissent pas suffisamment, vous pensez?
Je pense que c'est l'impunité parce que le policier ou l'agent de force de l'ordre qui se trouve à 1000 km de la capitale, dans des pays aussi vastes par exemple que le Niger, qui dispose de sa carabine à côté, mais il est le chef. Donc il agit selon son numéro et vous aurez des exemples où on va vous dire quand un véhicule quitte Lomé, combien le gars paie pour arriver jusqu'à Niamey. On a l'impression même qu'il y a une sorte d'entente, souvent c'est les chauffeurs ou les convois qui demande aux gens de mettre un peu d'argent, etc. Et tout cet argent est collecté. On a beau le dire, même ici, chez nous, au Nigeria, il y a plusieurs reportages, y compris dans le quotidien d'État, sur ces pratiques-là. Au niveau de la société civile, on est en train de faire un travail de plaidoyer pour les États-Unis d'Afrique. Regardez aujourd'hui même l'Union européenne, ils ont réussi à faire pour lutter contre les États-Unis d'Amérique. Donc je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Et vous le savez, que l'impérialisme joue sur la politique du divisé pour mieux régner. Et c'est cela qu'on est en train de faire chez nous. Malheureusement, nos chefs d'État ne le comprennent.
Et c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Michel Deji pour le forum du studio Kalangou sur l'apport de la migration. Bonne réception et au revoir.
Studio Kalangu.
Suivez les programmes du Studio Kalangu
à Magaria
sur la radio Kitari
101.5 MHz,
à Zender
sur la radio Shukra FM
105.5 MHz,
à Tanout
sur la radio Damergou
99 MHz,
à Difa
sur la radio Amfani
100 MHz,
à Menosorowa
sur la radio Mangari
95.1 MHz,
à Ingigmi
sur la radio Dileram
99 MHz,
à Kabalewa
sur la radio Mambio
99 MHz,
à Agadez
sur la radio Nomade FM
101.9 MHz
et sur la radio Sahara
97 MHz,
à Arlit
sur la radio Ikokan
95.1 MHz
et sur la radio Kausen
94 MHz,
à Tirozerine
sur la radio Azuru
95.1 MHz.
Studio Kalangu.